Chef de camp, on y va.
Ouais.
Tu as la radio?
Ouais.
Je m'appelle Jérémy Lemaire et je suis écotoxicologue à l'université de Vienne. Donc j'étudie les polluants environnementaux et leur impact donc sur l'environnement et sur les organismes.
Rosanna Mangione, je suis biologiste. Je suis spécialisée sur les crocodiliens et je suis associée avec l'université de Berne en Suisse. Je participe avec Jérémy dans son projet de la écotoxicologie de Caïman en Guyane.
Alors ici, on est en Guyane, au cœur de la forêt, donc au cœur de la réserve naturelle des Nourages, qui abrite une station de recherche, donc la station scientifique du CNRS des Nourages.
En Guyane, on a quatre espèces de caïmans, le caïman gris, le caïman rouge, le caïman à lunettes et le caïman noir. Ici, dans la réserve de Nourages, on n'a que de caïman gris. Le nom scientifique, c'est Paleosuchus trigonatus. C'est un petit caïman, maximum 1,60 m.
Alors en fait, on est ici pour faire un suivi de caïmans qu'on a initié en 2016. Donc en fait, on capture des caïmans, on les marque et on a une référence en fait où on peut savoir qui on a capturé à quel moment depuis 2016. On se sert du caïman comme un bio-indicateur. En Guyane, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'orpaillage illégal. Donc l'orpaillage, c'est l'extraction de l'or. Cette activité utilise beaucoup de mercure pour ses propriétés à s'amalgamer avec l'or et donc à faciliter l'extraction de l'or. Donc on rejette du mercure directement dans l'environnement et le mercure va pénétrer la chaîne alimentaire et donc va à chaque maillon s'accumuler un peu plus. Et donc le caïman qui est en haut de chaîne alimentaire, eh bien il va accumuler le mercure de tout ce qui est en dessous et qu'il aura mangé. Là on fait ça ici au Nourages parce que c'est un peu un site témoin sans impact anthropique, mais on fait aussi ça un peu partout en Guyane.
Donc il est 20h, il fait nuit noire, et là c'est l'heure où vous allez sortir en forêt.
C'est ça, en fait, à peu près tous les soirs, on va partir en forêt, donc équipé de notre perche de capture pour les caïmans, de lampes frontales et des équipements dans notre sac. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va prospecter le long des criques avec nos lampes, et on va scruter la surface de l'eau et on va essayer de trouver des yeux rouges. Donc en fait, c'est le même principe que pour les chats. Si on éclaire les yeux, il y a une membrane réfléchissante du fond de l'œil qui sert à capter la lumière. C'est aussi pour ça que les caïmans sont très actifs la nuit, parce qu'ils sont capables de capter le moindre rayon lumineux et de les amplifier, et comme ça, ils voient comme en plein jour. Et donc on va pouvoir déterminer, grâce à notre faisceau lumineux, qu'il y a un caïman, et quand c'est ça, en fait, on va directement l'attraper.
Et vous l'attrapez à la main?
Ça va dépendre de la taille, en fait. S'il est assez gros, on va prendre une perche de capture. Donc c'est un peu ce que prennent la SPA quand ils vont attraper un chien. Je vais éclairer au maximum de ma lampe dans son œil, histoire de l'éblouir, un peu comme le lapin qui est perdu dans les phares des voitures. Je vais passer le lasso autour de son cou et je vais serrer. Et là, à partir de ce moment-là, c'est là où la bagarre commence, parce que le caïman va essayer de se débattre, va essayer de mordre, d'attaquer, de tourner en prenant appui avec sa queue. Donc là, il y a Rosanna qui arrive rapidement et qui lui saute sur le dos et qui attrape derrière la nuque et qui va ensuite le maîtriser pour que je puisse mettre le scotch autour de la gueule. Sinon, quand il est un peu plus petit, oui, on peut l'attraper à la main. Par exemple, typiquement, si c'est un bébé, on va directement dessus et on attrape.
Donc là, avec vous, vous avez aussi un talkie-walkie, une machette et de très bonnes lampes frontales qui éclairent comme en plein jour dans la forêt.
Par règle de sécurité, en fait, on a une radio qui est toujours en liaison avec le camp. On va aussi des GPS, parce que si on se perd, eh ben, c'est important de pouvoir retrouver notre chemin tout seul. On est en forêt, hein, la nuit, on voit juste que notre faisceau lumineux nous montre. Et on a une deuxième lampe frontale dans le sac, au cas où notre lampe frontale serait HS, parce que si on est complètement dans le noir dans la forêt, là, ça devient vraiment un problème et ça peut être dangereux.
Et vous êtes parti jusqu'à quelle heure, là?
Jusqu'à 1h du matin.
Ok, donc je vous suis dans la forêt de nuit.
C'est ça, n'aie pas peur. Donc là, typiquement, c'est un bois de coupe.
Oh, wow.
C'est très joli. Très intéressant. On voit pas des serpents tous les jours.
C'est quoi comme espèce?
Un bois de coupe.
Il faut avoir l'œil quand même pour le voir dans la nuit comme ça.
Ben en fait, j'ai vu les yeux, il a un peu la même caractéristique que nos caïmans, mais les yeux réfléchissent en blanc. Donc de loin, avec le faisceau de la lampe, tu peux le voir assez facilement. Regarde, c'est assez drôle sur le haut de la queue, ou comment il s'est attaché à la branche. Il a fait un espèce de nœud.
C'est un jeune.
Et là, il est en position, il attend que quelque chose passe pour se détendre et attaquer.
Il prend presque une position de liane.
C'est ça, ça fait deux S consécutifs.
J'imagine qu'il faut bien regarder où on marche.
Oui, c'est... Généralement, il ne faut pas avoir peur. Mais parfois, dans la nuit, c'est un peu le temps quand les serpents sont en train de chasser.
Ce qu'on espère avec Rosanna, c'est qu'on puisse trouver un nid éclos avec des petits, parce que c'est le moment où il y a les éclosions. Sur cette crique, on a déjà trouvé deux nids qui ont éclos. Et donc on sait qu'il y a une femelle reproductrice qui vient ici et qui se reproduit et fait son nid dans cette zone. Donc là, on a bon espoir qu'on puisse trouver des petits. Donc là, on arrive sur la crique. Donc on va y aller tout doucement. Et quand on sera juste à côté de l'eau, je vais aller un petit peu en avant. Donc faites attention à marcher doucement et à pas trop m'éclairer.
Donc on marche le long de la rivière. J'ai l'impression que Jérémy et Rosanna ont trouvé quelque chose.
Là, j'ai deux bébés dans mes mains. Et oui, et Jérémy, il est en train de regarder s'il trouve encore deux autres bébés.
Et c'est quoi ce bruit qu'ils font ?
Ben là, en fait, ils font un petit cri d'alerte pour appeler leur mère. Donc, quand il y a un prédateur qui les attaque ou quand nous, on les attrape, ils émettent ce bruit pour appeler leur mère. Et normalement, la femelle arrive et vient défendre le petit. Par exemple, si c'était un oiseau, la femelle viendrait attaquer l'oiseau. Là, comme on est assez imposant et grand par rapport à elle, parce qu'elle fait au maximum 1m50, elle vient pas nous embêter. Mais c'est très fortement possible qu'elle soit juste derrière nous, pas loin, à écouter et à attendre en étant un peu, on va dire, inquiète en tant que bonne mère.
Ils sont mignons, non ?
Ils font quoi, une trentaine de centimètres ?
Là, ils vont faire 24 à 26 centimètres de long avec la queue. Ce qui montre également qu'ils sont très jeunes. Hein. Et donc, quand on le voit comme ça et qu'on imagine qu'il rentre dans un œuf, c'est quand même assez impressionnant. Et donc, ce qui est intéressant, en fait, c'est que c'est la troisième année consécutive qu'on trouve des petits sur la même zone. Donc, c'est qu'il y aurait une femelle qui se reproduit et qui utilise toujours le même nid.
Bon. Ça, c'est individu 188. Par de capture, c'est 9h55. 25 novembre 22. Espèce Trigonatus, capture, lieu secret de cascade.
Longueur de la tête, 42,28. Largeur de la tête, 27,22. Largeur de la plaque frontale, 21,22.
Ok.
Qu'est-ce que vous prélevez là ?
Alors là, en fait, on prélève un petit bout des écailles caudales sur la queue. Donc, on coupe une toute petite partie qui est une partie kératinisée. Leur peau est en fait comme les cheveux. Dans cette kératine, l'information qui est contenue pour nous, pour le mercure, c'est que durant son développement embryonnaire dans l'œuf, le mercure qui avait été transmis de la mère à son œuf, donc a impacté son développement embryonnaire à cet individu. Et ici contenu dans ce petit morceau d'écaille en fait, dans les tissus kératinisés.
Et vous prenez aussi un morceau de griffe.
C'est aussi un tissu kératinisé, donc ça va aussi nous donner à peu près la même information. Lors de l'analyse en laboratoire, eh bien, on pourra coupler avec ce qu'il y a dans les griffes et on pourra alors déterminer les quantités de mercure qui sont présentes chez cet individu. Ce qu'on va faire maintenant, c'est prendre le poids de l'individu. Donc là, il fait 60 grammes.
Et ils se tortillent.
Ils sont assez combatifs quand ils sont petits.
Ok, 60 grammes. Couleur des yeux
Marron. On sent pour la couleur des yeux parce que parfois c'est très variable. On peut avoir des individus avec les yeux marrons, d'autres les yeux verts et d'autres les yeux couleur or. On va placer un pit dans le côté gauche de la queue, donc en sous-cutané. C'est une puce... comme on peut trouver chez les chiens, les chats, dans les cliniques vétérinaires. Donc on met une petite puce.
Et maintenant, hop.
Donc voilà, maintenant l'individu a une puce. Et plus tard, quand on le recapturera, on pourra l'identifier.
Ok, je vais vérifier si on a pris tous. Il manque des photos. Jérémy est en train de préparer la caméra. Tous les données biométriques, le prélèvement griffe et caillouis. Et son, on ne va pas faire parce qu'il est encore un peu trop petit.
Ok. Je vais le remettre exactement où je l'ai capturé. Et
moi, je prépare la prochaine fiche.
Le deuxième.
Quels sont les effets que peut avoir le mercure sur les populations de caïmans ?
Depuis 2016, en fait, ce qu'on a montré, c'est que le mercure se bioaccumule dans nos caïmans. Et en fonction des tissus, on peut savoir en fait si c'est une contamination récente ou une contamination ancienne. Et en addition de ça, on a montré que ça va impacter leurs reins, leur système endocrinien. Et un autre aspect qui est plutôt reproductif, en fait, les caïmans gris en particulier, eh bien, on a montré que la mère va transmettre du mercure dans l'œuf et qu'ensuite, lors du développement embryonnaire de notre bébé dans son œuf, eh bien, il va être toujours soumis à des contaminations au mercure. Et à la fin, les individus qui ont eu les doses de mercure les plus importantes, eh bien, on va avoir des individus qui naissent et qui sont plus petits en taille. Donc en fait, ça déjà, c'est un premier problème parce que les individus étant plus petits vont être potentiellement plus sujets à la prédation. Mais aussi, ça nous pose des questions. S'il est plus petit, c'est bien qu'il y ait eu un impact sur le développement embryonnaire.
T'en as trouvé un autre ?
Ben là, du coup, j'étais en train de poser un caïman et de le relâcher à l'endroit où on l'a capturé. Et j'ai trouvé un autre caïman à peu près au même endroit. Donc, on l'a capturé. Il va repasser entre nos mains pour pouvoir être mesuré et prendre les données qu'on a besoin. Et là, si tu te retournes, tu peux voir qu'il y a un œil rouge au milieu du bassin. Et donc, il y a encore un autre bébé caïman.
Un œil rouge au milieu du bassin ?
Droit devant toi, là, en plein milieu, sous les branches.
Sous les branches.
On fait celui-là, du coup ?
Oui. Okay. Je prépare la prochaine fiche. Dans tous les cas, tu as choisi une très bonne nuit pour nous accompagner. Trouver des bébés... Ça arrive pas souvent, tu vois.
Il est quelle heure là ?
Là, il est minuit moins 10. Donc, ça fait presque 4 heures qu'on prospecte. Et on va doucement rentrer. Je pense qu'il y en a pour un bon 40 minutes à rentrer. Ok, let's go.
Qu'est-ce que tu as entendu ?
Je pensais avoir entendu claquer des dents, et souvent ça peut être des pécaries. Et le problème c'est que s'ils sont beaucoup, ils peuvent nous charger. Donc les pécaries ça devient un peu dangereux. Donc je préfère regarder doucement et m'assurer, mais je pense que c'était un individu qui est parti assez rapidement.
Jaguar.
J'ai vu un jaguar. Rosanna, j'ai vu un jaguar.
Non.
Je te jure.
Où il est allé ?
Il est allé comme ça.
J'ai vu un jaguar. J'avance.
Je l'ai reconnu avec sa robe. Avec sa fourrure.
Non.
Désolé, Rosanna.
Résultat, elle passe devant. C'est rare d'en voir, j'imagine.
Elle en a jamais vu. Et c'est la première fois que j'en vois un. Ouais, c'est assez rare et exceptionnel de voir un jaguar en forêt. Généralement, on dit toujours... on sait combien on a vu de jaguars, mais on sait pas combien de jaguars nous ont vus.
Vous avez vu les étoiles ?
Ouais.
C'est magnifique. C'est l'avantage d'être loin de toute civilisation. On n'a pas de pollution...
On a la chance d'avoir cette petite clairière juste à côté du camp pour avoir une petite vue dégagée vers le ciel, quoi. Parce que quand on est dans la forêt, on voit rien du tout.
C'est ça, c'est l'avantage de la drop zone pour l'hélicoptère. C'est que du coup, on a un espace visuel assez large. C'est vrai qu'en forêt, on peut vite devenir claustrophobe à force d'être enfermé, on peut se sentir étouffé. Donc il est minuit 20 et donc on a fini la prospection pour ce soir. Et on va rentrer prendre une douche et se mettre dans les hamacs.